France Musique.
Les grands entretiens. Dominique Boutel. France Musique.
Je m'appelle Betsy Jolas. Je suis née le 5 août 1926 à Paris. Et je suis compositrice.
Parmi les rencontres qui ont marqué Betsy Jolas, il y a évidemment Olivier Messiaen, dont elle intègre d'abord la classe au Conservatoire de Paris, avant de devenir son assistante en 1971.
Mais il ne savait pas qui j'étais.
Ah oui.
Il ne connaissait même pas mon nom.
C'est vrai ?
Il croyait que j'étais la sœur de Gilbert Ramy.
Oh.
Ben oui, on avait les yeux bleus et les cheveux blonds à l'époque.
Mais parce que vous ne lui montriez pas ce que vous écriviez ?
Ben non, c'était très gênant parce qu'il y en avait d'autres qui lui montraient, mais moi j'avais Darius Milhaud comme professeur de composition. Donc je n'osais pas trop, j'avais l'impression de lui être infidèle.
Mais vous avez fini par lui montrer à mes sciences que vous avez
Alors j'ai fini par lui montrer, mais quand j'avais quitté la classe.
Et alors ?
Ben alors, je lui ai envoyé ma première œuvre publiée, qui était une pièce pour flûte seule. Ça date de 64, quelque chose comme ça, 65. Pas de réponse. Et puis je vais à un concert du domaine musical et je rencontre Messiaen qui me dit « Ah, venez vous asseoir à côté de moi ». Et alors il me dit « Ah, j'ai adoré votre pièce, je l'ai analysée à ma classe ». J'ai cru tomber à la renverse. Parce qu'on ne s'était pas vraiment parlé depuis. Ouais. Après ça, j'ai continué à lui envoyer des choses et il m'a souvent commenté ce qu'il recevait. Et je pense que c'est pour ça que finalement il m'a demandé de lui servir d'assistante. C'est ce que j'appelle mes contes de fées. C'est-à-dire, il m'arrive des choses comme ça. Et donc il faut les saisir au vol. C'est ça le problème. Moi j'ai de la chance, mais encore faut-il prendre la chance quand elle arrive. Mais vous savez, j'ai failli pas tomber à la renverse. Hein. Et je me suis entendu dire, mais ce sera un très grand honneur, alors que habituellement j'étais très timide, j'avais tendance à répondre non. Là j'ai accepté. Mais je me suis dit, en sortant, mais j'ai accepté, mais comment est-ce que je vais faire ? Parce que c'était finalement la très grande classe du conservatoire, bien que le conservatoire ne le sache pas, on ne se rendait pas compte que c'était là que mijotait le mouvement spectral. Tous les, comme on appelle en anglais, les founding fathers,
les pères fondateurs,
les pères fondateurs du mouvement spectral étaient dans cette classe. Messiaen était très heureux de cette classe et ça le stimulait. Et eux, lui, les stimulait, évidemment. Il leur montrait les œuvres de Xenakis, il leur montrait les œuvres de Ligeti, et lui, les découvrait en même temps. Bon, il y avait Griset, il y avait Lévinas, il y avait Muraille, il y avait des gens comme ça, il y avait André Bon. Enfin, et donc, c'était une classe extrêmement enthousiaste et en même temps très critique. De gens extrêmement remarquables, tous. Et moi, je mourais de peur. La première fois où je suis arrivé, il m'avait à l'œil. Hein.
On imagine très bien.
Je mourais de peur. Messieurs m'avait bien dit, ça commence à 9h et ça finit à 13h. Je dis, 9h à 13h, ça fait long quand même. Vous ne prenez pas une pause. Oh, il dit, c'est pas la peine d'avoir une pause. Quand on doit analyser la Valkyrie, c'est à peine suffisant. Donc j'arrive à 9h, rue de Madrid. Je rentre dans la classe. Et personne. personne à 9h30, personne à 10h, personne à 10h30. À 11h arrive une étudiante, Gisèle Barrault, et j'ai eu donc une étudiante pendant une heure. Que faire avec une étudiante pendant une heure? Ah non, c'était très dur la première. Et vers 11h30, ça commençait à venir un petit peu, 11h30, midi et demi. Midi et demi, arrive un étudiant avec une partition de 60 pages que j'ai commencé à regarder un petit peu. Et là, vraiment, je me disais, mais je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible. Et surtout qu'il y avait, Jean Koerner, merveilleux pianiste, qui devient un professeur d'accompagnement à la suite, qui me surveillait, que chaque fois que je me mettais au piano pour jouer un exemple, il me disait « Do dièse », quand je faisais une faute, hein. « Do dièse », « Ré bémol
». Ils étaient très durs, en fait. Vous pensez que vous attendez au tournant
un peu? Mais je ne pense pas, parce qu'on est devenus très amis.
Oui.
Et pendant toute cette période, qui a été très riche pour moi, parce qu'évidemment, j'ai travaillé comme une folle, je n'avais jamais vraiment enseigné à ce niveau-là, hein. Je devais, comme Messiaen, préparer beaucoup d'analyses. Donc ça m'a préparé pour l'enseignement de l'analyse. Et l'analyse, pour un compositeur, c'est vraiment la meilleure façon de se cultiver. Parce que ça pose les questions qu'on se pose. J'ai adoré cette classe, finalement. Je l'ai adoré tout au long de mon enseignement.
Vous, en tant que compositrice, vous nourrissiez du travail d'analyse que vous faisiez avec,
oui,
vos étudiants.
Absolument. Ça a été quelque chose d'extrêmement riche. Ben, comme déjà, Messiaen nous nourrissait avec sa vision, en fait. Mais on n'était pas obligé de la suivre, sa vision. Mais ça aiguisait notre curiosité. On allait voir, il avait dit ceci. Il avait des idées très arrêtées sur un tas de choses qui n'étaient pas forcément les nôtres. Mais il nous allumait. J'ai vraiment enseigné dans cette optique-là. Je continue, moi, à me nourrir d'autres œuvres, à voler. Je pille sans arrêt, mais je crois que nous le faisons tous.
Alors, c'est sous quelle forme que vous pillez?
Oh deux notes, oui. une transition, une mesure, une façon d'aller d'un tempo à un autre. Enfin, des choses que personne ne peut voir si je ne les montre pas. J'ai appris comme ça de toute la musique classique, notamment. Il n'y a pas que Schoenberg et Berg et Verbern et Boulez qui peuvent vous apprendre quelque chose. Vous pouvez apprendre quelque chose de Monteverdi, de Mozart, ou de Beethoven, ou de Chopin. C'est à dessein que je parle de Chopin, parce que ça, quel grand musicien.
Vous avez beaucoup appris de Chopin.
Énormément, énormément. Mais ça continue. J'espère ne jamais arriver au bout de ce que je découvre, parce qu'il me reste encore quelques années, mais je suis constamment en train de découvrir des choses nouvelles aujourd'hui. Des manières de bouger, des manières d'avancer, ou de reculer d'ailleurs, parfois. Thank you.
Dominique Boutel, Les Grands Entretiens, France Musique.
Il y a une autre rencontre peut-être importante, parce qu'elle était importante à l'époque, c'est celle de Pierre Boulez.
Oui, alors cette rencontre s'est faite de façon tout à fait inattendue, c'est-à-dire que je l'ai rencontré en fait à la faveur des missions dont j'étais chargé de faire le programme pour venir en aide à Roger Desormières. Roger Desormières qui avait donc créé notamment Le Soleil des Eaux de Boulez. Vous imaginez ce que c'était à l'époque? Ça a été non pas un scandale, mais ça a été quelque chose qui a marqué les oreilles et les esprits. Voilà. Moi, j'ai eu cet extraordinaire job, comme disait Millot, et ça consistait à coordonner des émissions sous le nom de Colette Desormières, la femme de Roger Desormières. Tous les musiciens de Paris qui avaient été des amis de Roger Desormières faisaient les textes et moi, je faisais les programmes. C'était formidable pour un jeune compositeur que j'étais à l'époque. J'ai appris à faire des programmes et puis j'ai connu tous les musiciens de Paris à ce moment-là. J'étais plus âgé que moi. C'est à ce moment-là que j'ai connu Dithieu, j'ai connu Mialovisti, j'ai connu Boulez. Donc il me faisait des textes anonymes et Boulez faisant des textes anonymes se laissait aller, littéralement. C'était très drôle parce que c'était donc, vraiment en contraste avec ce qu'il écrivait sous son nom. C'était presque romantique, souvent.
Ah oui?
Ah oui, oui. Et alors, moi, j'ai gardé des textes à la main. Il écrivait à la main, à cette époque-là. Sa petite écriture, les pauvres dactylos de la radio étaient obligés de la déchiffrer.
Et vous connaissait-il en tant que compositrice?
Non, pas du tout.
Pas du tout?
Pas du tout. Non, non. Et je n'avais pas du tout osé lui montrer quelque chose. Je ne montrais pas. Je montrais parfois à Gilbert Ramy, qui était mon camarade de classe, en fait. Mon petit frère, comme je dis, parce qu'on se voyait beaucoup. Non, j'étais horriblement timide, faut dire. C'est difficile à croire. Hein.
Oui, exactement, j'allais vous le dire.
Je ne pouvais pas téléphoner devant quelqu'un. Et donc, prendre contact avec Boulez, qui était déjà très célèbre. Moi, j'étais absolument pas connu. Je me rappelle, c'est Girolamo Arrigo qui m'a dit, mais allez, montre-lui des choses. Et du coup, je me suis forcé.
Vous étiez intéressé par sa musique?
Ah oui, puis j'étais intéressé par sa démarche, enfin j'ai commencé à fréquenter le domaine musical, si, si, absolument. J'avais très envie d'avoir un avis, et bon, je l'ai fait finalement. Je suis allé chez lui, il habitait Paris à ce moment-là, et j'ai failli partir quand on m'a ouvert la porte et on m'a demandé si j'avais pas une petite course à faire, comme on fait, quand on a du retard. J'ai dit oui, 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 et je suis parti, j'ai dit je reviens pas. Et puis je me suis dit, si, je reviens. Et je suis revenu et on a passé un très bon moment ensemble. Vraiment, je ne peux pas oublier ce moment. Il m'a dit des choses que je n'ai jamais oubliées. Alors, il m'a dit notamment, j'ai essayé de lui expliquer ce que j'avais fait. Il y avait un petit passage presque sériel. Mais je n'ai pas écrit de musique sérielle, je veux qu'on le sache. Là, j'ai voulu lui expliquer ce que j'avais fait. Il s'agissait d'ailleurs d'une cantate radiophonique qui s'appelait « Dans la chaleur vacante ». Je venais de la terminer quand je suis allé le voir. C'était une commande du service de Henri Dithieu. Alors, c'est-à-dire la deuxième commande qu'il me fait. Et donc, je lui montre ça. C'était une œuvre assez développée, tout de même, avec des poèmes d'André Dubuchet. Pour chœur de femmes, maîtrise et cinq solistes, ça fait que des femmes, d'ailleurs. Et un ensemble instrumental assez important. Et donc, je lui montre ça, j'essaie de lui expliquer et il m'arrête. Il m'a dit, ah non, 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 mais on voit très bien comment c'est fait. Ça a été très important pour moi qu'il me dise ça, parce que je me suis dit, dorénavant, on ne verra pas comment c'est fait. L'idée qu'on puisse me découvrir me gênait extraordinairement.
Qu'on puisse connaître les ficelles de la création,
voilà,
c'est ça?
Voilà,
oui.
Voilà. Ça paraissait inadmissible pour moi. C'est pas du tout ce que je cherchais. Je savais que c'était pas ce que je cherchais. Donc il m'a été très utile de me dire ça. Dorénavant, tu feras pas les choses comme ça. En plus, ce qui a été très utile, c'est la manière dont il m'a accueilli. Moi, j'avais très peur à ce moment-là qu'il me considère comme une femme compositeur. C'était pas forcément un compliment. Eh ben, pas du tout.
Il vous a considéré comme une collègue.
Absolument.
Ouais.
Absolument. Très sérieusement. Très sérieusement. Il m'a demandé comment transposer les instruments. Est-ce que c'était transposé? Enfin, comme si j'étais vraiment une collègue. Et ça a été extraordinairement important.
Parce que c'était finalement assez nouveau?
Oui. À cette époque-là, j'étais sorti du conservatoire, 63, 64, quelque chose comme ça, 63 je crois. J'ai dû sortir du conservatoire vers 56, 57. Entre-temps, j'ai eu des expériences extrêmement intéressantes aussi parce que dès ma sortie du conservatoire, j'ai pu faire de la musique de film et de la musique de scène. C'était une façon de tester mon savoir. J'ai rencontré Serge Collot, qui a été extrêmement important dans ma vie, parce que très vite, il m'a mis en contact avec les meilleurs musiciens. Donc, tout à coup, j'ai été magnifiquement joué. Je me souviens de ma première musique de film, 20 minutes de musique que j'ai écrite en 4 jours, alors que je ne pensais pas être capable de faire ça. J'avais Jean-Pierre Rampal à la flûte, j'avais Lily Laskin à la harpe, j'avais Serge Collot à l'alto, j'avais Georges Delru qui dirigeait. Wow. Enfin, c'était le rêve. Je veux dire, cette musique que j'avais écrite en quelques jours sonnait merveilleusement bien. Et du coup, je me suis dit, tiens, je sais écrire. Ça a été très important pour moi. Et après, j'ai fait beaucoup de musique de scène. Et Serge a participé à quasiment toutes les musiques. Il avait un certain goût pour ma musique, de toute évidence. C'est lui qui m'a recommandé à Boulez après cette visite. Bon, il y avait d'une part, Boulez avait vu mon travail, et d'autre part, Serge Collot, qui avait donc le trio à cordes français, qui était l'altiste. Ils ont demandé à Boulez, ils ont négocié avec Boulez de faire un concert de trio à cordes. Et c'est Serge Collot qui a demandé à Boulez de prévoir une œuvre de moi dans ce programme. Et Boulez a répondu très justement, d'accord, mais il faut que je voie. Et du coup, je m'y suis mis. Et c'est là que j'ai compris au bout d'un certain temps, commençant à composer, que ce ne serait pas un trio, hélas, que ce serait un quatuor. Simplement, il y avait une quatrième partie qui se glissait, malgré moi. Au bout d'un moment, j'ai compris que ce serait une voix. Et là, tous les problèmes ont commencé. Bon, j'ai travaillé comme une folle. C'était pour le domaine musical. Après, j'en rêvais du domaine musical. Je savais que ce serait bien joué, que j'aurais un public qui m'écouterait. C'est là que je voulais être joué. Et c'était vraiment pour moi très, très important. Donc, j'ai travaillé des nuits entières. Et j'ai envoyé une dizaine de pages à Pierre Boulez en m'excusant d'avoir pas pu écrire un trio, que c'était un quatuor, malheureusement. Il m'a répondu tout de suite, très gentiment, en me disant qu'il avait bien reçu ma partition, qu'évidemment, l'année qui venait, il n'allait pas pouvoir la programmer parce que c'est un programme de trio. Mais il a ajouté cette phrase que je ne peux pas oublier, « Vous ne perdez rien pour attendre ». Et donc, l'année d'après, on a joué mon quatuor. Chanteuse. J'ai entendu Madame Esplé sur un disque d'une œuvre de Henze qui s'appelle Élégie des jeunes amants. Et je trouvais qu'elle avait une très belle voix. Et je demande à Serge, est-ce que tu connais Madame Esplé ? Il m'a dit, formidable. Elle est très musicienne, elle a une belle oreille, enfin, très bien. Puis je suis allé l'entendre dans l'Acmé. Je lui fais la proposition. Et sa réponse est venue alors que j'étais allé pour la première fois, je crois bien que c'était la première fois, à Darmstadt. J'ai voulu voir ce que c'était que Darmstadt. Il y avait Maderna, il y avait Boulez qui faisait un cours sur la harpe, que j'oublierai jamais, qui était en fait un prétexte pour parler de tout. Ce pauvre Francis Pierre était là sur un PD, sur une estrade avec sa harpe, mais on parlait pas beaucoup de harpe, mais c'était passionnant. Et il y avait Pousseur aussi, il y avait Pousseur. Et je dis à Boulez, j'ai reçu une réponse de Madame Esplé, elle a vu la partition, elle me dit que c'est un peu trop grave, ça ne montait que jusqu'au si bémol aigu. Et alors Boulez me dit, mais bah montez, faites comme Mozart, montez. Et bien c'est ce que j'ai fait. Je suis allé jusqu'au fa, sur aigu, celui de la Reine de la Nuit. Donc on voit encore sur ma partition le moment où ça a monté, en rouge. n'ai jamais travaillé aussi longtemps sur une œuvre aussi courte. Elle fait 15 minutes, c'est quand même pas mal, en un mouvement. Mais j'y ai travaillé un an et demi. Le problème, c'était de sortir d'un certain cloisonnement qui me gênait énormément.
Et lequel?
C'était ma musique. Quand j'avais terminé quelque chose, il y avait quasiment une barre. Je ne savais pas créer une continuité. J'en rêvais de cette continuité. Je ne savais pas la faire. Et là, je l'ai appris. J'ai résolu un tas de problèmes qui me gênaient beaucoup. Je me rappelle très bien qu'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas travailler avec Messiaen, je l'avoue maintenant, aujourd'hui, j'ai travaillé avec lui, j'étais très contente, mais je ne voulais pas travailler avec lui parce que je ne voulais pas, enfin, cette musique cloisonnée, un peu comme des vitraux, vous savez, avec une grande ligne noire entre les sections, les choses qui se répètent, je ne voulais pas de ça. Et je ne pensais pas qu'il pouvait m'apporter quelque chose. J'étais un peu naïve à l'époque. Hein. J'ai résolu ce problème. À partir de là, j'ai vécu sur l'acquis de ce quatuor pendant des années. Ça a été très important.
Vous saviez ce que vous ne vouliez pas? Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez?
Je savais vaguement. Je savais que je ne voulais pas de bâti, pas de couture. Je ne voulais pas qu'on voit justement comment c'était fait. Mon dieu, en fait, à l'époque, c'était Debussy tout de même. Hein. Peut-être que j'ai vraiment été, disons, dans sa succession. C'est très difficile de savoir quel a été l'héritage de Debussy. Où est-ce qu'on le trouve? Boulez était complètement fasciné par Debussy. Oui. Je crois qu'il a écrit sur Debussy plus que sur tout autre compositeur. Mais il n'a jamais voulu le suivre. Il a écrit sur lui en employant des termes qu'il n'emploie pas habituellement. Il parle de magie, de choses qui sont peu scientifiques, disons.
C'est avec Pierre Boulez dirigeant Jeu de Claude Debussy à la tête de l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire en 1966 que s'achève ce quatrième épisode des Grands Entretiens avec la compositrice Betsy Jolas. Toutes les références des œuvres entendues sont à retrouver bien sûr sur le site de France Musique à la page des Grands Entretiens. Merci à l'équipe qui réunissait Gilles Blanchard à la réalisation, Jean de Robert à la prise de son, Philippe Bredin au mixage et Céline Train-de-Nouvelle à la préparation. Nous nous retrouvons demain à 13h pour le cinquième et dernier rendez-vous.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.